Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est une sixième émission sur l'anthropologie chrétienne. Celle-ci prend en compte la dimension transcendantale en tout homme, ainsi que la dignité de la personne humaine en raison même de son origine, créée à l'image de Dieu. Nous vous avons proposé jusqu'à présent de mieux comprendre ce qu'est la personne humaine, homme ou femme, et nous avons vu en quoi l'un et l'autre se complètent. Découvrons aujourd'hui ce qu'est la vie intérieure. Bonjour Camille Le Certaine.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes mariée et mère de 5 enfants. Vous terminez actuellement un master en théologie du corps en plus d'études de philosophie. Et avec votre mari, vous accompagnez des couples dans les domaines de l'affectivité et de la sexualité. Vous avez aussi cofondé un parcours d'anthropologie chrétienne et de coaching à destination des lycéennes intitulé Mademoiselle Potentielle. Alors, avant d'aborder ce sujet de la vie intérieure et de l'unité de vie, je vous propose de récapituler à grands traits le chemin que nous avons parcouru au cours des 5 premières émissions.
Oui, en fait, la première grande partie là, des cinq émissions, on était vraiment sur l'être. Donc, cette question, qui suis-je ? Je suis une personne, je suis une de corps et d'âme. Ensuite, on a vu que l'être humain est créé homme et femme. Et donc, on a aussi réfléchi à ce que cette différence et cette complémentarité signifiaient. On a vu également ce point essentiel que le masculin existe pour le féminin et le féminin pour le masculin, parce qu'ils sont appelés à ne faire qu'une seule chair, comme nous le dit la Genèse. Et donc, vraiment, cette correspondance de l'un avec l'autre, cette sponsalité, ça les rend image de Dieu. Donc voilà, vraiment ne jamais tomber dans cette opposition masculin-féminin, mais plutôt une interdépendance de l'un par rapport à l'autre.
Alors, vous dites, Camille, de certaines, de ne pas tomber dans une opposition entre le masculin et le féminin, mais vous nous avez pourtant expliqué qu'il y avait une spécificité propre à chaque sexe.
Oui, exactement. Il y a bien une spécificité d'être masculin et une spécificité d'être féminin. Voilà, qu'on a aussi essayé de creuser un peu la mission de la femme, la physiologie de la femme par le cycle féminin qui structure l'être féminin et puis le sens de la maternité pour la femme. Tout ceci, c'était vraiment afin de bien comprendre quelle est la vocation particulière, la mission spécifique de la femme.
Et tout ce que vous nous avez présenté jusqu'à présent nous dit qui est l'homme et qui est la femme, mais une personne ne se définit pas seulement par son être, elle agit.
Oui.
Alors pourquoi il faut étudier l'agir après l'être ?
En fait, souvent, on peut avoir tendance à faire de la loi morale, à faire de l'éthique un carcan extérieur, quelque chose de qu'on viendrait plaquer sur l'homme, sur la femme, à l'extérieur de lui pour le contraindre, et donc qui serait donné ou exigé de manière extrinsèque. Extrinsèque, c'est-à-dire qui est extérieur, qui n'appartient pas à l'essence de la personne. Et parfois, on peut avoir cette conception-là de la morale. Par exemple, quand on pense à la grande question du célibat des prêtres, eh ben on va dire oui, mais donc l'Église ordonne le célibat des prêtres de manière arbitraire et c'est comme une contrainte qui est contraire à leur nature d'homme. Et en fait, on ne voit pas à quel point cela correspond profondément à la vocation sacerdotale, à quel point le célibat est intrinsèque à la vocation sacerdotale, c'est-à-dire que ça correspond à sa nature. Et c'est très important de revenir à cet adage scolastique qui dit que l'agir suit l'être. Donc, on peut le reformuler en disant « on agit conformément à ce que l'on est ».
À ce qu'on est.
Oui. Voilà. Donc, dis-moi comment tu agis, je te dirai qui tu es. Et donc, voilà. Par exemple, pour Saint Jean-Paul II, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour lui. L'anthropologie fonde l'éthique. Donc, on étudie qui on est et après, ben, forcément, on va étudier l'agir parce qu'on agit. Voilà, exactement. On agit en tant que personne humaine. Donc, tout ce qu'on va voir maintenant dans les prochaines émissions sur l'agir humain, et ben, c'est profondément cohérent avec ce que l'homme est. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé par approfondir l'être de la personne humaine. Voilà. Et donc, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, et ben on va essayer de comprendre comment on agit pour correspondre à ce que nous sommes, en fait, pour déployer notre être. Puisque l'éthique, elle doit découler de l'être. Elle doit vraiment correspondre profondément à ce que nous sommes. Et si on comprend ça, alors finalement, la morale, c'est un chemin d'épanouissement. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui va contraindre l'être. Au contraire, c'est source d'épanouissement de l'être.
Mmh. Oui, parce que source d'épanouissement, parce que unité entre l'être et l'agir.
Oui,
hein.
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez particulièrement par l'agir humain ?
Donc l'agir humain, on peut le définir comme le pouvoir propre de l'homme de transformer ce qui est, de s'exprimer par des actes. peut dire, c'est vouloir, opérer, produire, accomplir. Ça vient du latin agere, qui veut dire pousser devant soi, mener, faire. Donc c'est vraiment tous nos comportements, notre conduite. Et donc voilà, c'est là le lien avec la morale. La morale vient de mores, les mœurs, manière de se comporter. Et l'éthique, éthos en grec, vient de coutume ou usage. Voilà, c'est vraiment notre manière d'être, de se comporter.
Mais alors, pourtant, l'animal a aussi une action.
Oui.
Qu'est-ce qui le distingue de l'agir humain ?
Ouais, alors, la grande caractéristique de l'agir humain par rapport à l'agir animal, c'est la liberté et l'autodétermination. L'animal, lui, il est déterminé par son instinct. Par exemple, un chien qui croise une chienne en période de chaleur, eh bien, il est réceptif à ses phéromones sexuelles et donc il va chercher à s'accoupler avec la femelle. Alors que l'homme, il n'est pas déterminé par son instinct. Donc voilà, c'est vraiment ce point de la liberté et de l'autodétermination.
Et ce point de la liberté, on y reviendra oui. peut-être dans une prochaine séance. Oui. Hein, voilà, on va le garder oui. bien de côté. Quelle est la finalité de la personne humaine ?
Donc, en fait, la finalité, c'est le but de toute chose conformément à ce qu'il est. Et donc, la finalité de la personne humaine, on peut résumer cette question en disant pourquoi est-ce que Dieu nous a créés finalement ? Eh bien, pourquoi Dieu nous a créés ? C'est pour le rencontrer et pour être heureux au ciel avec lui. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est conforme à notre nature humaine. Nous sommes faits pour être avec Dieu, heureux au ciel. Et alors, on avait un jour un frère Carme qui nous avait donné cette illustration qui était, je trouvais, très amusante, avec un meuble Ikea. Il disait, voilà, on offre un meuble Ikea à trois jeunes. Alors, le premier, c'est un scout, donc il est un peu radical. Donc, il voit du bois et tout de suite, il fait l'association bois-feu. Donc, il emmène les planches pour son prochain week-end. C'est super. Donc, il va faire un magnifique feu. Donc, c'est très bien. Mais il y a quand même une faible fécondité du meuble, même s'il y a une fécondité quand même, mais voilà, qui n'est pas pleine.
Oui, le bois, mais pas le meuble.
C'est ça. Ouais. Le deuxième, il est ingénieur. Lui, alors, il va étudier, il va chercher et puis il va concevoir un nouveau meuble en redécoupant les planches. Donc c'est mieux parce qu'on a quand même un meuble, mais il reste des bouts de planches qui n'ont servi à rien. Donc on peut dire que le meuble n'a pas donné toute sa richesse. Ouais. Le troisième, il est plus simple. Il prend son plan, il ouvre son plan Ikea, il suit et puis à la fin, il a son meuble. En fait, il connaissait le but de ses planches, il les a utilisées au mieux pour faire son meuble. Et bien, on peut dire que c'est la même chose pour l'homme. Quand on sait ce pourquoi on est fait, et bien, on peut lui faire atteindre son plein déploiement, on peut devenir le plus humain possible.
Voilà. Et donc, rappelons-le, l'homme est fait pour Dieu, ouais. pour être en communion
pour
avec lui.
Pour être avec Dieu.
Voilà. Alors, on peut pourtant se choisir soi-même un but dans l'existence. Et évidemment, on le voit beaucoup autour de nous. De nombreuses personnes essayent de construire leur propre bonheur. Est-ce que c'est nécessairement une erreur ?
Non, pas nécessairement. Mais voilà, il y a le risque, si on reprend l'exemple du meuble Ikea, soyons simples. En fait, soyons simples. Jésus nous invite à être simples, en fait, à suivre le plan. Alors, on va dire pas bêtement comme des moutons,
oui,
etc.
Parce qu'il y a
évidemment
aussi cette question de la liberté.
Tout
toujours.
À fait. Ouais. Et puis de la spécificité, de la singularité de chaque personne. Mais on va dire chacun de nous, c'est un super meuble, pas forcément le même meuble, mais en fait, si on est dans l'ordre de la nature, eh ben, on va permettre d'être le plus pleinement déployé. Alors que si on est tout le temps en train d'aller contre notre nature, eh bien voilà, il y a un risque de que ça coince à un moment. Voilà. On est vraiment des êtres en devenir, en fait. C'était un peu le titre de cette formation, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, « Devenir ce que nous sommes ». Voilà, il n'y a pas d'être parfait sur la Terre, personne n'est encore pleinement humain. Et Dieu,
ça, c'est à cause du péché originel.
Oui, oui, toujours. Voilà, mais Dieu a vraiment un plan d'amour pour nous. Il nous a choisis personnellement. Et donc, il y a vraiment ce devenir sur la terre, devenir pleinement notre personne, finalement, en respectant notre être de personne humaine, en respectant ce que Dieu a prévu, ce plan d'amour que Dieu a prévu pour nous, qui va nous permettre, en fait, de nous déployer le plus parfaitement possible.
Finalement, quel est le but ultime de l'homme ?
Oui, on peut se dire, on a plein d'étapes en fait dans notre vie, mais en fait l'homme, il n'a pas été créé pour se marier, pour travailler, pour avoir des enfants. Vraiment, la finalité ultime de l'homme, c'est rencontrer Dieu. C'est là qu'on accomplit pleinement notre humanité. Donc c'est pas un supplément, en fait, c'est notre essentiel. Même si on n'a pas forcément conscience de ça, parce que nous, on est un peu absorbés par tous les buts humains de notre vie et qui sont très bons, hein, que Dieu nous donne.
Mais
comme
des moyens,
étapes,
en fait,
voilà, exactement, comme des étapes, comme des moyens pour aller vers Dieu, en fait. Vraiment, c'est orienter notre vie vers Dieu, parce que ce bonheur immense auquel on est appelé, voilà, qui nous dépasse, hein, c'est vraiment la marque qu'on est fait pour Dieu. Et d'ailleurs, c'est le bonheur qui nous comble réellement. Et encore une fois, c'est pas un but externe. Voilà, c'est vraiment ce pourquoi on a été créé. Donc, toutes nos forces, toutes nos facultés sont faites pour ça. Finalement, tout le monde est fait pour ça, est fait pour que nous rencontrions Dieu, que nous soyons heureux au ciel avec Dieu. On est vraiment fait pour être des saints. Et donc, rien n'échappe à la providence divine qui nous veut heureux au ciel avec Dieu. Et donc, refuser Dieu, eh bien, c'est aussi en quelque sorte se refuser soi-même parce que je suis faite pour être avec Dieu.
Oui, et c'est intéressant ce que vous avez dit, Camille de Certaines, parce que, en fait, plus on est en communion avec Dieu, plus on est soi-même.
Oui.
Ouais. C'est vraiment lié. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être avec Dieu ?
Mais ça, c'est la grande question de la vie intérieure, en fait. La vie intérieure, donc la vie de notre âme, eh bien, elle va nous permettre d'intégrer cette finalité et d'ordonner notre vie vers cette finalité. Et donc, c'est dès aujourd'hui que je vais préparer ce que je vivrai au ciel pleinement par la prière. Voilà, la prière, dans notre vie quotidienne, notre vie actuelle, eh bien, c'est comme l'apprentissage de notre vocation de bienheureux. Puisque prier, c'est vraiment connaître Dieu de cette connaissance amoureuse, en fait. Ce frère Carme, il nous disait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ça c'est Aristote qui nous dit ça, eh bien c'est en priant qu'on devient homme, personne humaine, qu'on ne devient pas un ange ou une grenouille de bénitier, mais non, un vrai homme, une vraie femme. Donc, femme, prions pour devenir belle et homme, prier pour devenir fort. Voilà, on pourrait vraiment dire ça. La prière, c'est vraiment un chemin d'incarnation, un chemin d'humanisation. Et on le voit, hein, les saints, finalement, ce sont des personnes complètement humaines. Pourquoi ? Parce qu'en fait, prier, ça nous place face à Dieu et ça nous recentre sur l'essentiel de notre vie et de notre vocation. Et cet essentiel, il n'est pas accessoire, même si parfois on a tendance, on peut l'oublier, on peut le mettre voilà, dans un petit coin. La prière, voilà, c'est le dimanche matin, c'est 10 minutes par jour. Mais voilà, c'est un moment de notre vie.
Et en fait, c'est un moment qui doit irriguer toute la vie.
C'est exactement ça, ouais. C'est un moment qui doit irriguer, parce que sinon, il y a un risque de vivre à la surface et de perdre de vue notre vocation ultime. Voilà, notre travail, notre mari, notre femme, nos enfants, nos amis, tout ça, c'est bon et c'est en vue du ciel. Et donc, finalement, la prière, elle va nous aider à ordonner tout ce que nous faisons, tout notre agir, puisqu'en fait, la prière, elle va nous faire voir la finalité. Et donc, elle va nous remontrer que chacun des actes que nous posons doit être orienté, doit être comme glissé dans cette finalité.
Elle permet d'ordonner les
voilà,
choses.
Voilà, complètement. Ouais, ouais. Et donc, vraiment, cette question qu'elle va nous permettre de nous poser, c'est est-ce que cet acte, même très simple, me rapproche de ma finalité, donc de Dieu, ou pas ? Est-ce que cet acte est orienté ? Et finalement, sans la vie intérieure, on risque de chercher à l'extérieur de nous-mêmes les raisons de nos actes, nos motivations.
Et ce qui nous disperse aussi. Hein.
Voilà.
Ouais. Et alors, j'invite les auditeurs de Radio Présence à retrouver l'émission avec le frère Jean-Gabriel Rueg sur les fruits de l'oraison. Et ça donne justement cette perspective d'une vie ordonnée grâce à la prière.
Ouais. Ouais. Ouais.
Alors, si je vous comprends bien, Camille de Certaines, notre agir se puise dans la prière.
Oui, vraiment, vraiment, pour être unifié, notre agir, il doit découler de notre cœur, de nos aspirations profondes, de nos désirs, de nos besoins. Mais tout ça, en fait, on va le voir, si on peut le dire comme ça, si on se connecte à notre cœur et du coup, si on cultive notre vie intérieure pour découvrir ces aspirations profondes, découvrir ces désirs de notre cœur, pour les accueillir, pour les purifier aussi, et puis vraiment ensuite pour les transformer en acte, en agir. J'aime bien cet exemple du GPS. En fait, notre GPS, voilà, on met un point pour notre finalité, où on veut arriver. Mais si on sait où on va, mais qu'on ne sait pas d'où on part, ben, on ne va pas trouver le chemin. Vous voyez, le GPS, en fait, après, il nous dit la localisation. Il part de là où on est pour aller vers là où on veut aller. Et bien, en fait, voilà, quel est mon point de départ ? Et mon point de départ, c'est vraiment ma vie intérieure, mon cœur, mes aspirations profondes qui vont justement être éclairées par la lumière de Dieu, par le Saint-Esprit. Ça, c'est mon point de départ. Et quel est mon but ? Le ciel. Mais là, je vais pouvoir arriver, tracer ma route. Et donc, je vais peut-être me planter en cours de route, ce qui est le principe du GPS. En fait, parfois, mince, j'ai loupé la rue. Bon, bah, parfois, dans notre vie, on voit bien que bah, non, là, je n'ai pas pris le bon chemin. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, comme je suis toujours connectée à mon cœur, à mon âme, à Dieu, en fait, eh bien, mon GPS, il va recalculer au fur et à mesure pour me faire arriver. Pour autant, justement, que je me rebranche un peu, on peut dire, sur ma vie intérieure.
Et c'est cette même image du GPS qui était prise par un frère, alors non pas carme, mais dominicain, à propos du sacrement de la réconciliation, où on avait ce chemin comme ça, et dès qu'on faisait un péché, pouf, on prenait la mauvaise route à droite, et puis par le sacrement de réconciliation, Dieu nous remettait finalement sur cette ligne la plus droite possible.
Exactement.
Entre le point de départ et le point d'arrivée qui est Dieu, qui est le ciel. Comment s'articule notre action et la grâce que nous donne la prière ?
En fait, finalement, dans la prière, Dieu va nous donner la grâce nécessaire pour voir et pour poursuivre notre finalité. Parce que tout seul, nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est la grande question qui a, on va dire, un peu agité l'Église, la question du quiétisme et du pélagianisme. En fait, cette articulation entre la grâce reçue de Dieu et notre action. Il y a eu donc le quiétisme, cette hérésie spirituelle du XVIIe siècle, en fait, qui nous disait, Dieu fait tout, et donc l'homme, il est dans une espèce de passivité tranquille, et donc il va se laisser faire par Dieu qui conduit sa vie.
Donc pas d'agir.
Voilà. En fait, finalement, il n'y avait plus besoin de faire des efforts, puisque Dieu faisait tout, mais donc, ultimement, il n'y avait plus besoin des sacrements, plus besoin de la prière, voilà. Donc c'est pour ça qu'on était vraiment dans cette hérésie un peu extrême d'un côté du balancier. Et puis... l'autre côté du balancier, l'hérésie inverse, alors c'était au IVe siècle, à l'inverse, l'homme était capable du bien, mais ultimement capable de vivre sans péché, sans l'aide de la grâce. Donc il y avait cette contestation du péché originel. Parce que l'idée, c'était un peu l'homme, par son seul arbitre, peut se poser dans le bien, peut choisir le bien tout seul. Et donc finalement, les deux sont des hérésies, parce que nous, on a bien la trace du péché originel en nous.
Et qu'on a besoin de Dieu.
Ouais. Et donc, la prière est infiniment nécessaire pour que le Seigneur nous donne sa grâce pour avancer vers lui. Ça, c'est d'un côté. Voilà, on a besoin de la grâce, Seigneur. On a besoin de la vie intérieure, de la prière, pour être irrigué par la grâce. Et d'un autre côté, eh bien, le Seigneur, il attend notre travail, il attend nos actes libres. Pour avancer vers lui, il ne fera pas tout seul.
Il ne fera pas sans nous.
Voilà. Et c'est saint Augustin qui nous dit « Dieu t'a créé seul, mais ne te sauvera pas tout seul ». Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Il ne te sauvera pas sans ta coopération à la grâce ». Voilà, notre fin, c'est vraiment la perfection chrétienne. Et donc, si notre fin, c'est de voir Dieu et d'aller au ciel, eh bien, notre chemin doit être celui de la perfection chrétienne.
Alors justement, vous parlez de cette perfection chrétienne, Camille Tertaine, et évidemment, ça va être important d'expliquer ce dont il s'agit. Je vous propose de marquer une pause musicale et puis vous nous direz ce que vous entendez par cette expression. Nous écoutons « Aimer, c'est tout donner » interprété par Natacha Saint-Pierre.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour dans votre émission Vivante Église sur l'anthropologie chrétienne avec Camille de Certaine. Vous nous disiez, Camille, que le but ultime de l'homme, c'est de rencontrer Dieu et cela passe par la prière. Vous avez bien expliqué comment cette prière, elle faisait l'unité en fait, dans la personne humaine. Et vous nous disiez juste avant cette pause, vous nous parliez de perfection chrétienne. Et alors là, attention, parce qu'on sait bien que la perfection n'est pas de ce monde, les saints ne sont pas parfaits et seul Dieu est parfait. Alors finalement, qu'est-ce que la perfection chrétienne n'est pas d'abord.
Oui, c'est très important parce qu'on peut avoir une très mauvaise image de la perfection, donc on va commencer par ce qu'elle n'est pas. La perfection, ça n'est pas le fait de se conformer à un ensemble de règles et de pratiques religieuses externes, en fait à un ensemble de lois. On pourrait se dire, voilà, j'ai respecté toutes les règles, j'ai récité toutes mes prières, je prie bien à genoux, donc je suis parfait, donc je vais mériter d'aller au ciel. C'est un peu le côté pharisien.
Pharisien, ouais.
Voilà. Donc c'est vraiment voilà, l'attitude des pharisiens. Et parfois, hein, on peut avoir cette attitude-là quand on a l'impression un peu de cocher toutes les cases, comme on dit, c'est bon, là, j'ai tout juste, tout est bon. Et on peut se rappeler, et c'est un peu le cas en ce moment hein, dans les lectures de la Bible, comme Jésus est sévère envers les pharisiens. Voilà, la perfection, ça n'est pas l'observance des rites ou des lois. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ces rites et ces lois ne sont pas bonnes, mais elles ne rendent pas le chrétien parfait. Voilà, on n'est pas dans un catharisme non plus. Donc ça, c'est pour la question des lois extérieures. La perfection, ça n'est pas non plus le fait de devenir une grande mystique qui connaîtrait des extases, qui passerait 3 heures par jour en oraison. Voilà. Donc évidemment, l'oraison 3 heures par jour, c'est très bon. Il y a des grands mystiques qui ont des expériences extraordinaires et qui... Voilà,
Tout le monde n'est pas appelé à cette vocation-là.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, ces expériences mystiques un peu extraordinaires, elles sont données à Dieu à certaines personnes qui ont une mission particulière. Voilà, on pense à une Sainte Thérèse d'Avila, une Sainte Mère Thérésa, mais on va dire que ce n'est pas la voie normale de monsieur et madame tout le monde que nous sommes, en fait, des personnes ordinaires que nous sommes. Donc on l'a dit avant, évidemment, c'est important de prendre un temps de prière, de cultiver l'oraison, mais on n'est pas dans une voie extraordinaire. Voilà, on est vraiment dans une voie toute simple, ordinaire.
La voie du quotidien.
Voilà, la voie des gens de la rue, on pourrait dire.
Oui.
On peut dire aussi que la perfection chrétienne, elle n'est pas réservée aux religieux et aux religieuses. Parce que parfois, on se dit, non, mais c'est pas pour nous, parce que nous, on est plongés dans notre travail, dans nos couches, si on est mère de famille, dans nos ravitaillements, dans nos trajets pour les enfants, etc. Donc voilà, c'est pas pour nous. Eh bien non, en fait, c'est vraiment une voie du quotidien.
Et alors... À l'inverse, comment vous pourriez définir la perfection chrétienne ?
Oui. Du coup, en fait, voilà, la perfection chrétienne, qu'est-ce que c'est ? De manière très simple, c'est l'union avec Dieu dans l'amour, par l'amour. Et c'est là où on voit que, du coup, c'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes que Dieu appelle hors du monde. Il y a vraiment des vocations particulières, des vocations de religieux, de religieuses, qui sont des personnes que Dieu va mettre hors du monde. Mais les personnes que Dieu laisse dans le monde, que Dieu appelle dans le monde, eh bien, elles sont aussi appelées à cette union d'amour parfaite, en fait. Et il n'y a pas besoin de faire des miracles pour ça. On est tous appelés à aimer, et je crois les femmes particulièrement, et donc à vivre cette perfection de l'amour dans notre quotidien.
Et cette perfection, elle se vit au jour le jour.
Voilà.
Voilà, il ne suffit pas d'un grand élan d'amour une fois pour que ça suffise.
Non, c'est ça. Il faut vraiment s'ancrer dans notre quotidien quelque chose voilà, de petit, de simple, mais finalement de continu qui doit irriguer toute notre vie. Saint José Maria nous pose cette question et nous dit « Est-ce que tu veux vraiment être saint ? Eh bien, remplis le petit devoir de chaque instant, fais ce que tu dois et sois à ce que tu fais. » Voilà, on a vraiment une approche très réaliste et concrète de la sainteté au milieu du monde.
Fais à ce que tu fais, sois à ce que tu fais, c'est très important parce que même en tant que mère de famille, on peut être en train de faire quelque chose et puis de penser à mille autres choses en même temps.
On peut avoir vraiment un risque de dispersion. On a tous des vies très actives, donc il y a vraiment un risque de dispersion. Et donc il y a vraiment cet ancrage dans le réel, dans l'instant présent, parce que Dieu est dans cet instant présent. Donc Dieu, nos enfants, les personnes qu'on côtoie, notre travail, si on est dans cet instant présent, ben on va pouvoir trouver Dieu dans cet instant. Et Saint José Maria, il nous dit, hein, voilà, donc laisser les rêves, laisser les faux idéalismes, laisser ce qu'il appelle la mystique des si. C'est, voilà, ça, c'est très bon. C'est vraiment, si j'étais pas mariée, si j'avais pas cette profession-là, si j'avais pas ce souci avec tel enfant, eh bien, je ferais des choses beaucoup plus grandes.
Ouais, maintenant, c'est dangereux, ça.
C'est très dangereux. Et en même temps, c'est très tentant. On est tous touchés par ça fréquemment. Et Saint-Germain, il nous dit, tenez-vous-en à la réalité la plus matérielle, la plus immédiate, parce que c'est là que se trouve le Seigneur. Et donc, voilà, en d'autres termes, il nous dit, soit nous savons trouver le Seigneur dans notre vie ordinaire, même dans nos soucis, même dans nos épreuves, même dans nos difficultés.
Dans ce que nous n'avons pas choisi.
Voilà, dans tout ce que nous, de ce que nous recevons, si nous ne le trouvons pas là, eh bien alors nous ne le trouverons jamais. Parce qu'il est là dans le réel, le Seigneur.
Oui, c'est ça. Et arrêter de se faire des plans sur la comète en disant, voilà, si j'avais fait ça ou sinon, si j'avais pris telle autre décision, voilà. On est dans ce temps, cet instant... avec le Seigneur. Alors très concrètement, comment fait-on pour trouver Dieu dans ce quotidien ?
En fait, il s'agit de transformer toutes les circonstances de la vie courante, qu'elles soient agréables ou moins agréables, en source de dialogue avec Dieu. En fait, si j'arrive à simplement partager avec Dieu mon quotidien, tout ce qui est facile et tout ce qui est difficile, eh bien finalement, je vais faire de mon quotidien une prière et donc une contemplation. Saint José Maria nous dit cette tâche banale semblable à celle qu'effectuent tes collègues de travail, doit être pour toi une prière continuelle, avec les mêmes paroles intimes et familières, mais chaque jour sur une mélodie différente. C'est vraiment notre mission de transformer la prose de cette vie en alexandrin, en un poème héroïque. Donc, voilà, je trouve ça vraiment très beau. C'est vraiment mon travail, je peux le faire uniquement comme un travail, ou je peux le faire à l'intérieur de mon travail, donc c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose qui va m'extraire de mon travail, c'est vraiment au sein de mon travail le faire comme une source de dialogue avec Dieu, le faire avec Dieu. Et donc ça, c'est vraiment un aspect de notre unité de vie, d'aimer le lieu et l'époque où Dieu nous a placés. Et on ne peut pas être unifié si on est partagé entre notre vie et notre cœur qui nous dirait ce serait mieux ailleurs, ce serait mieux si ma vie était différente, si je vivais à une période différente. Ou alors c'était mieux avant, ou ce sera mieux après, ou ce sera mieux quand mon enfant fera ses nuits, ou quand il ira à l'école, ou quand il sera grand, etc. Ou ce sera mieux quand je serai à la retraite. Voilà, là, on n'est plus dans...
On n'est plus dans l'instant présent.
Voilà, dont on parlait juste avant, dans ce réel. Or, c'est enthousiasmant de se dire que Dieu nous a mis là, dans cette vie, avec la possibilité de travailler, d'améliorer le monde là où je vis, à ma petite échelle, attention, hein, on ne va pas changer le monde en une seconde, mais à ma petite échelle, avec les personnes que je côtoie, dans ma vie ordinaire, vraiment, essayer d'en faire une source de dialogue et essayer de changer le monde, en fait. Et c'est vraiment cette incarnation dans notre quotidien, trouver Dieu dans ce quotidien ordinaire et être convaincu que notre quotidien nous permet d'accéder à Dieu, que Dieu est là, ici et maintenant. Et ça va nous permettre de transformer chaque acte de notre quotidien en acte d'amour et de lui donner cette intention. On avait dit ça dans une émission précédente. On avait dit, voilà, pour cet exemple des mères de famille, je peux éplucher mes pommes de terre voilà, pour mon dîner du soir. Et je peux aussi éplucher mes pommes de terre comme un acte surnaturel, en l'offrant comme un acte d'amour pour sauver le monde. C'est un peu l'exemple de la petite Thérèse. Hein. On peut ramasser une épingle par amour. Et ça, c'est un acte de pur amour qui a une répercussion dans le ciel qui est immense.
Et quand vous disiez, Camille, de certaines qu'il fallait être présent voilà, dans le réel et pas se dire si j'avais eu une autre vie, etc. En fait, Dieu donne sa grâce dans cet instant présent.
Oui.
Et c'est ce qu'on voit avec cet épisode des Hébreux au désert où Dieu donne la manne.
Oui.
Et cette manne, elle est pour le jour J, elle n'est pas pour le lendemain, elle ne se conserve pas.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais. Alors, vous invitez à avoir une vie unifiée, à tout faire en présence de Dieu, mais alors, par quoi faut-il commencer ?
Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'unité ? L'unité, c'est vraiment ce qui est considéré comme formant un tout, un ensemble indivisible. Voilà, ça, c'est important, ce mot indivisible. Ça veut dire qu'il y a une unité entre mes pensées, mes paroles, mes actes, en une direction unique qui est Dieu. En fait, si notre intention est droite, si nous cherchons Dieu, si nous cherchons les autres en Dieu, alors nos actions vont être orientées vers le bien. Voilà, tout doit nous conduire à Dieu. En fait, c'est vraiment ne pas être segmenté, ne pas être compartimenté, avoir une vie professionnelle dans un sens, une vie spirituelle dans un autre sens. Voilà, mais vraiment essayer de tout orienter en un seul sens.
Et c'est pas évident parce que parfois, même dans sa vie professionnelle, on peut avoir un travail qui ne nous mène pas spontanément vers Dieu.
Non, tout à fait. Ça, c'est sûr. Mais ultimement, en fait, on peut offrir notre travail à Dieu, parce que notre travail est une participation à l'œuvre de Dieu. En fait, Dieu nous a donné voilà, cette liberté, cette intelligence, cette volonté. Et donc, si j'exerce mon travail en tant que personne humaine, avec la dignité de personne humaine, même si mon travail peut être de construire des avions, voilà, on est à Toulouse, donc beaucoup de personnes travaillent pour l'aéronautique, bah, on peut se dire ça peut être très loin de Dieu. Mais non, en fait, je participe en tant que personne humaine, par mon intelligence, par mon agir, à l'œuvre de Dieu. Même si ça peut sembler extérieurement loin de Dieu. Mais non, je le fais en tant que personne humaine chrétienne. Et donc, c'est une participation à l'œuvre de Dieu.
Avoir une vie unifiée, c'est donc une certaine dynamique. On est bien d'accord que ce n'est pas une attitude passive.
Non, c'est vraiment une dynamique. Et c'est ce qu'on l'a vu avec le GPS. En fait, on a un point de départ voilà, de personnes humaines. Donc, qu'est-ce que je suis avec mon potentiel, aussi avec mes limites, avec mes forces, mes faiblesses. Et en fait, mes actes vont contribuer à faire de moi une bonne personne, mes actes bons. C'est-à-dire que je vais être meilleure dans mes actes bons et je risque d'être moins bon dans mes actes mauvais. Voilà, mais il y a vraiment une dynamique de l'agir qui nous fait nous déployer, qui nous déploie nos talents, nos désirs aussi. Voilà, et il y a vraiment ce moteur qui est l'homme qui a ce désir de se donner dans l'amour. Et donc, toute personne va se construire par sa vie, en étant acteur de sa vie. Et nos actes nous rendent acteurs de notre vie, voilà, grâce à notre intelligence, notre volonté. Et donc, il y a vraiment cet enjeu de l'unité de vie, unifier celle que je suis, celui que je suis, entre ce que je veux profondément, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Il y a vraiment aimer, vouloir et faire le bien. Et donc, c'est vraiment une dynamique de vie.
Et pour tout ça, il y a plein de petites questions qu'on peut se poser pour voir si on est vraiment aligné dans cette dynamique de vie.
Ouais, ces questions, ça peut être qui je veux être, voilà, quel est le bien que je veux faire, pourquoi je veux vivre, pourquoi en deux mots, voilà vraiment quel est le but de ma vie, quelle est ma raison d'être, quelle est la vérité sur moi. Voilà, ça, c'est des questions qu'on peut se poser justement pour toujours se reconnecter à quels sont mes désirs, qui je suis, quels sont mes talents, quelles sont mes limites. Où je veux aller. Et en fait, tout ça, ça va permettre de construire ma dynamique de vie.
Mais à condition de ne pas rester auto-centré sur son
nouvel. Non,
sur
tout à fait. Nouvel. Où je veux aller, exactement, quel est le bien que je veux faire.
Et oui, c'est ça. On constate que ce n'est pas si facile de vivre cette unité et d'ajuster nos actes à notre cœur. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette unité?
Oui, on rencontre tous dans la vie des obstacles. À ça, un des obstacles, ça peut être que je n'ai pas de but. Je ne sais pas encore ce que je veux. Je n'ai pas découvert vraiment là où je voulais aller. Un autre obstacle, ça peut être que je n'ai pas de point de départ, je ne me connais pas très bien, j'ai pas encore conscientisé quels étaient mes talents, quelles étaient mes limites, et c'est important hein, de faire ce travail sur soi, quelque chose qui est assez simple, mais quand même qui va demander un peu d'attention pour voilà, connaître quel talent le Seigneur m'a donné, et en même temps je ne suis pas tout puissant, je ne suis pas parfait, donc quelles sont aussi mes limites que je dois intégrer hein, parce que je suis mes forces et mes faiblesses.
Ça, c'est le point de départ du GPS dont vous parliez tout à l'heure.
Tout à fait, c'est tout à fait le point de départ. Et puis aussi, quelles sont mes peurs? Voilà, quels sont mes évitements? Quels sont mes contrôles? Quelles croyances un peu limitantes je peux avoir mis dans ma vie qui vont m'empêcher vraiment voilà, d'aller vers mon but? Le Seigneur nous dit dans l'évangile de Saint-Marc, enfin, il le dit dans plusieurs évangiles, Saint-Marc, Saint-Luc, Saint-Matthieu, tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. Il y a vraiment un combat contre notre nature blessée. Voilà, notre nature, elle est blessée depuis le péché originel. Et cette blessure, elle a des conséquences. Elle a des conséquences sur notre intelligence, parce que du coup, on ne voit pas forcément toujours le bien à faire. On ne voit pas non plus toujours le mal qu'on fait ou qu'on doit éviter. Ce péché originel a aussi des conséquences sur notre volonté, parce qu'on voit bien qu'on est faible hein, dans la poursuite du bien. Concrètement, là, on est dans la fin du carême, on voit toutes les difficultés qu'on a eues à tenir, même à aimer nos résolutions de carême sur la longueur. Voilà, on voit bien que notre volonté, elle est faible.
Elle est fragile.
Elle est très fragile, oui. Une des conséquences aussi, c'est qu'on peut aimer un mal en le prenant pour un bien. C'est toute cette question du discernement. Donc voilà, il y a vraiment... cette nécessité de la vie intérieure pour discerner tout ça, pour vraiment voir Quel maître on veut servir ? Jésus nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Et c'est notre vie intérieure qui va nous... par l'inspiration du Saint-Esprit, qui va nous éclairer sur quel maître on veut vraiment choisir dans notre vie.
En vous suivant, Camille Tertaine, on comprend bien qu'il n'y a pas d'un côté une vie avec Dieu et de l'autre côté une vie avec les autres. Et c'est un peu ce que disait le pape François dans son encyclique Laudato Si sur l'écologie. Tout est lié.
Oui. Il ne s'agit pas du tout d'avoir une double vie. Il s'agit vraiment de lutter contre, parce que c'est vraiment, encore une fois, on est tous touchés par le péché originel, donc on peut tous avoir cette tendance à la double vie, d'un côté notre vie intérieure, notre vie de relation avec Dieu, et de l'autre côté notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie sociale. Vraiment, il n'y a pas d'espace dans notre vie où la lumière de Dieu ne peut pas pénétrer. Et donc, vraiment tout réunifier dans l'amour et par l'amour. Et en fait, par l'amour, Saint José Maria nous dit, tout ce qu'on fait par amour prend de la beauté et de la grandeur. Donc, toute notre vie concrète, matérielle, sociale, professionnelle, prend de la beauté par la vie intérieure. Et donc, si nos choix de vie, si nos activités sont en adéquation avec nos talents, avec nos valeurs, il y a vraiment un effet, comme un effet démultiplicateur. C'était Aristote qui disait ça. Il n'était pas chrétien, mais il nous disait, là où les talents croisent les besoins du monde, réside la vocation. Donc, il va y avoir une démultiplication. Le Seigneur va se servir de nos talents, si on les oriente bien, pour nous permettre de laisser une empreinte de bien dans le monde.
Mmh. Et le Seigneur se sert aussi de nos faiblesses.
Oui.
Puisque à travers nos failles, finalement, oui. il passe et il agit.
Il fait passer sa lumière, ouais. Tout à fait.
Ouais. Pour parvenir à cette unité de vie, encore faut-il apprendre à mieux se connaître.
Oui. Ça, c'est vraiment important. On a tous une personnalité, des atouts différents, et on ne va pas exceller en tout. Voilà, on a aussi tous nos voies de garage, on peut dire, des voies dans lesquelles on piétine, on gaspille notre temps. Et on a aussi nos voies d'excellence. Voilà, c'est vraiment toute la dynamique des talents. Hein. C'est des voies dans lesquelles on apprend avec facilité, avec plaisir. Et ça, c'est propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes talents. Vous êtes très talentueux dans un domaine dans lequel je ne suis pas du tout talentueuse et vice-versa. Voilà, vraiment, le Seigneur nous donne des dons à chacun. C'est ça qu'il faut repérer. Parce que, en les empruntant, ça va nous permettre de faire vraiment le bien. Et parfois, on se rend compte que telle voie, c'est pas forcément notre... Ça correspond pas forcément à qui on est. Donc, c'est pas forcément la peine de s'engager là-dedans.
Pas confondre avec des compétences qu'on aurait acquises.
Oui, mais justement, nos compétences, elles vont s'appuyer sur nos talents. Alors, je peux travailler fermement pour acquérir des compétences, mais là où j'ai des talents, je vais acquérir beaucoup plus facilement des compétences. Voilà, et c'est quand même l'importance de se connaître. En général, ça rejoint ce que j'aime faire,
oui.
Ce que je désire faire. Mmh. Voilà. Et donc, il y a comme une espèce d'équation. Est-ce que mes choix de vie répondent à ma finalité, qui est de voir Dieu ? Est-ce que ça répond à ce qui est essentiel pour moi, à mes désirs profonds ? Est-ce que mes choix de vie correspondent aussi à ce que j'aime faire ? Et là, il y a cette question d'oser se confronter aux attentes des autres, parce que parfois, on peut avoir cette injonction, on a besoin de toi pour faire ça, pour telle action... Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose pour quoi je suis fait, qui correspond vraiment à mes désirs, en fait ?
On le voit dans le bénévolat, notamment.
Oui,
hein.
Qui correspond à ce que je sais faire. C'est important d'être dans le service et c'est important aussi de bien se connaître. Et alors, en fait, quel est l'indicateur du fait que je sois à ma place ? C'est la joie. Il me semble que vraiment la joie, c'est vraiment le signe que je suis dans mon talent, dans ma vocation. Et donc, dans le service... et que j'ai vraiment orienté ma vie, orienté mon agir. Alors attention, c'est vraiment la vraie joie profonde, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, qu'il n'y aura pas des épreuves, hein. Mais vraiment c'est cette joie qui vient de cette tranquillité intérieure, de voir qu'on est dans l'ordre, en fait. Voilà, on est dans l'unité, on a orienté notre vie.
C'est aussi la paix, alors.
C'est la paix, exactement. Mmh, voilà. Ouais. Vraiment la paix qui est cette tranquillité de l'ordre et qui va nous donner cette joie profonde, en fait, qu'on est dans une bonne orientation.
Mmh. Allez, un dernier mot pour conclure cette belle émission.
Ce dernier mot, je le laisse à Madeleine Delbrel, que j'aime beaucoup, en fait, qui nous dit vraiment que c'est dans notre vie ordinaire, c'est dans notre rue, elle emploie ce mot, on est des gens de rue, des rues, c'est là où Dieu nous a placés, et bien c'est là qu'est le lieu de notre sainteté. Et en fait, elle nous dit, rien ne nous manque là, dans notre rue, parce que sinon Dieu nous l'aurait déjà donné. Donc voilà, vraiment, grande confiance que Dieu nous donne tous les moyens, là où nous sommes, dans notre vie toute simple, dans notre vie ordinaire, justement pour le rencontrer et pour être des saints.
Merci beaucoup, Camille de Certaine.
Avec joie.
Et vous nous avez entretenu ce matin de ce qu'est la vie intérieure, et puis vous nous avez fait quelques précisions sur la perfection humaine, la perfection chrétienne. Et c'était donc votre émission Vivante Église.